France Inter.
Dans son nouveau roman, Francia, Nancy Houston nous plonge dans le quotidien d'une prostituée colombienne exilée à Paris. Mais l'écrivaine ne raconte pas seulement Francia, transgenre, elle décrit aussi ses 17 clients en une journée et c'est toute une masculinité qui défile sous nos yeux. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Vincent.
Vous avez souhaité à vos côtés la présence d'un comédien et metteur en scène que l'on a vu entre autres dans les spectacles de Wajdi Mouawad. Patrick Lemauve, bonjour.
Bonjour.
Je sais que vous vous connaissez bien depuis pas loin de 40 ans et que vous dites parfois les textes de Nancy Houston. On va vous retrouver tous les deux jusqu'à 18h, mais le grand atelier, ce sont aussi des nouvelles de la vie culturelle et quelques conseils. Alors je reviendrai sur la disparition de Frédéric Mitterrand, mort jeudi d'un cancer à 76 ans, et nous irons à Rouen prendre des nouvelles de l'exposition consacrée à David Hockney jusqu'à fin septembre.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
C'est un personnage du XXe siècle qui disparaît, un amoureux de Proust qui aimait échapper à la foule en s'enfermant aux Beaux-Arts. Il y avait chez Frédéric Mitterrand, neveu de François, une gravité, une tristesse qui ne l'empêchait pas de plaisanter et même de rire de lui, de provoquer aussi. Mondain, fasciné par le pouvoir, il était surtout éminemment cultivé, défenseur des arts et soucieux de leur transmission. Jeune homme, ses cinémas olympiques dans le 14e arrondissement de Paris ont formé des milliers de spectateurs au cinéma d'auteur, Duras ou Tarkovsky, Chaïne et Bergman.
Paris 14e arrondissement, le cinéma de quartier est rebaptisé aux couleurs chaudes d'une nouvelle enseigne lumineuse. Frédéric Mitterrand achète sa première salle de cinéma. Entouré d'une équipe de passionnés, il met immédiatement en place une programmation différente. Sur le tableau de liège du couloir d'entrée, quelques photos et de simples feuilles de papier travaillées au crayon feutre. Place à 20 francs maximum.
Ce sont des salles qui ont eu un certain impact auprès du public, dans la mesure où on a sorti des films dans ces salles. Je dis « on » parce que j'étais pas seul. C'était un petit peu un centre culturel, comme ça un peu militant en même temps. Et donc on a, ou même très militant, et on a sorti effectivement les films de Ozu, par exemple, que les gens ne connaissaient pas en France, ou les films, ou des comédies musicales arabes. Alors ça, c'était pour tout le monde, c'était scandaleux, les comédies musicales arabes, comment est-ce que c'est possible qu'on montre des navets pareils? C'était pas du tout des navets, c'était des très beaux films. Et puis beaucoup de films de Fassbinder, ceux qui n'étaient pas sortis, enfin plein de choses comme ça.
Piètre gestionnaire, Mitterrand fait faillite après 15 ans d'activité, et par exercer son talent de conteur à la télévision, producteur et animateur remarqué, avec un style bien à lui, un culte des divas et des reines, mélange d'emphase, de strass et de culture à TF1, puis Antenne 2. Frédéric Mitterrand aimait raconter tour à tour écrivain, diseur, cinéaste. La mauvaise vie reste son meilleur livre. Regardant en arrière de l'enfance à ses désirs d'adulte, il se confie et décrit des aspects d'une vie passée qu'il n'aime pas, aspirant à une vie meilleure. Comme exemple de son médiocre passé, il relève ses relations tarifées en Thaïlande avec des hommes jeunes. Des années plus tard, ses confessions seront détournées par des opposants politiques dans le but de salir le ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, qu'il devient en 2009 pour 3 ans. Et depuis sa mort, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les mêmes extraits sont arrachés du livre pour brosser le portrait d'un monstre, sans que jamais le projet littéraire ni le récit ne soient considérés comme un tout. Excessif, parfois agaçant, toujours prêt à s'auto-flageller avant que d'autres ne le fustigent, Frédéric Mitterrand, dont on gardera aussi les films « Lettres d'amour en Somalie » et « Madame Butterfly », était un homme éminemment attachant, bourré de paradoxes, un être singulier. Nancy Houston, dans un instant, dans le grand atelier, juste après « Baccar », l'une des révélations de la scène indie londonienne.
what did I expect? You said it with your chest. Your eyes wouldn't cry if you wanted them to. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive. Pray I wake up again. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive.
C'était Bacar qui chantait Alive.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Nancy Houston, vous avez l'air d'apprécier ce qu'on vient d'écouter.
Ah, j'aime beaucoup cette voix.
De toute façon, vous aimez la chanson, vous.
Et j'aime danser.
Vous aimez danser, vous faites du piano, du clavecin, et vous chantez aussi.
Hein? J'essaie.
Vous faites d'autres choses que l'écriture. J'aimerais vraiment connaître ce qui se passe dans votre cerveau de romancière, plus exactement savoir comment arrive un jour, dans cette tête que j'ai en face de moi, un personnage. Est-ce qu'il y a un déclencheur d'écriture ?
Il y a plusieurs déclencheurs, toujours, et c'est très important de garder le mystère. Ce n'est pas que moi je garde le secret, c'est que ça reste un mystère pour moi. Et si je comprenais comment ça fonctionnait, je crois que ça ne fonctionnerait plus. Mais...
On peut peut-être prendre l'exemple de Francia, cette prostituée transgenre colombienne qui travaille au Bois de Boulogne.
Oui.
Comment elle arrive sous la plume de Nancy Houston?
Eh bien, il se trouve qu'on m'a invité, un ami m'a invité à participer à des maraudes, c'est-à-dire des sorties en camionnette la nuit, des associations qui portent, apportent de l'aide, du thé, du café, des gâteaux, des capotes, du lubrifiant aux femmes qui travaillent dans le bois, qui sont plusieurs centaines probablement toutes les nuits que Dieu fait ou ne fait pas. Et j'ai un peu... hésité, je trouvais que c'était pas spécialement un truc pour moi, mais...
Est-ce qu'il vous a dit de venir parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de romanesque?
Il m'a dit, il faudrait qu'il y ait un livre là-dessus,
ah, oui.
Et c'est, il n'y a que toi qui puisses le faire. Et a priori, je voyais pas spécialement pourquoi. Moi, je venais de travailler sur une autre femme prostituée, Griselda d'Israël.
Oui, qui est devenue écrivaine, oui.
Voilà, qui était écrivaine, peintre, poète, magnifique. Et, donc je me suis dit ça suffit peut-être, mais je suis allée dans une de ces maraudes et j'ai été saisie par la niaque et la gentillesse et l'humour de ces femmes et ça a forcé le respect et forcé l'écoute aussi. Ça m'a vraiment intéressée du coup. J'avais tout de suite envie de situer mon personnage. En Colombie, enfin l'enfance de ce personnage, je savais que ce serait une Colombienne, au départ un petit garçon colombien. Je suis allée en Colombie. Ce qui est vrai, c'est aussi ce que je dis à la fin, il y a eu beaucoup d'Ariane qui m'ont tendu des pelotes de fil pour m'aider à trouver mon chemin dans ce labyrinthe, parce oui. que c'est vraiment un roman labyrinthien. j'ai eu beaucoup d'aide, des gens très généreux qui m'ont amenée dans des endroits où je n'aurais pas pu aller seule. Puis parce que c'était dangereux ou parce que je ne parlais pas la langue, etc.
Donc vous avez pu interroger plusieurs prostituées?
Beaucoup.
Et, oui. Et de cette somme est née Francia?
Oui, petit à petit. Au début, je tâtonne, j'écris des versions, j'écris des scènes. Et plus tard, je vais comprendre, par exemple, que la foi chrétienne, catholique, est fondamentale pour Francia. Ce n'est pas marginal comme ça peut l'être pour beaucoup de Français.
Oui.
C'est fondamental. Et du coup, ça l'a fait bouger dans mon cœur. Et je me rends compte qu'il y a des répliques que je lui ai attribuées qui sont trop acides, trop sarcastiques, et que jamais elle ne parlerait comme ça. À mesure que j'avance dans le livre, je la comprends de mieux en mieux, je la sens de mieux en mieux vivre en moi, et ça c'est juste le bonheur, quand ça, le personnage commence à exister, à prendre de la chair, on entend sa voix, on sent sa peau.
Ah oui, vous êtes en train de vous réchauffer avec les bras là. Le roman est construit d'une manière extrêmement originale, j'avais jamais lu ça, c'est un chapitre qui raconte Francia, donc aujourd'hui, son quotidien, ce qu'elle vit à la fois professionnellement, sexuellement, et ce qu'elle ressent aussi, et puis sa manière de penser au passé, quand elle était le petit garçon que vous évoquiez, Ruben, avec un père assez violent, même plus que violent. Et puis, le chapitre suivant, c'est un client qui va venir. Vous avez rythmé le livre avec ses 17 clients et le présent et le passé de Francia. C'est une construction très originale.
C'était essentiel parce que je trouve qu'on oublie toujours, lorsqu'on parle de la prostitution, de parler de la raison d'être de la prostitution, qui est la sexualité masculine. Et il n'y aurait pas d'offre s'il n'y avait pas de demande, en fait. Donc, quand j'ai interrogé les femmes sur qui sont les clients, et toutes me répondaient exactement la même chose, toutes me disaient « c'est tout le monde ». En une phrase, c'était fini. C'est tout le monde. Donc, j'ai pris un échantillon de tout le monde, des hommes que je pouvais imaginer, que je pouvais connaître.
Est-ce que eux aussi, vous les avez rencontrés parfois? Est-ce que vous avez pu interroger des clients?
Ah ben, je pense que je parle avec des clients tous les jours, en fait, sans le savoir. Et vous aussi.
In situ, au Bois de Boulogne.
En tant que client, je crois que... Non, j'ai pas essayé. Je crois que ça aurait été impossible. Je pense pas qu'ils auraient accepté.
Mais c'est incroyable la précision de tout, à la fois de la vie et du passé de Francia et de chaque client. On a là un jeune homme qui, avant d'aller fêter l'anniversaire de sa mère, passe par le bois pour la première fois. Donc Nancy Houston réussit à se mettre dans la peau et la tête et le désir d'un gamin qui va voir une prostituée transgenre. On a un vieux galeriste d'art africain qui se fait emmener au bois par son chauffeur, un gamin de 15 ans qui va laisser ses économies à Francia. Oui, j'allais demander si vous les inventiez, mais effectivement, puisque c'est tout le monde, vous avez, je le disais tout à l'heure, une diversité du masculin.
Je me suis toujours... J'ai toujours beaucoup aimé me projeter dans la tête de beaucoup de gens. Je l'ai fait dans les variations Goldberg, mon tout premier roman, ça remonte.
Ah oui, il y a des voix qui vous viennent.
Voilà, il y a des voix. Et c'est vrai que depuis très longtemps, je me suis intéressée aussi à la sexualité masculine, parce qu'on parle toujours les féministes dénoncent, et je trouve qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut vraiment écouter, il faut comprendre, il faut regarder, il faut être aussi se projeter à l'intérieur des corps des hommes. Donc en ce sens, je suis trans aussi, depuis toujours, parce que j'ai inventé beaucoup de personnages masculins au long de ma vie d'écrivaine. Et j'ai fait un spectacle qui s'appelait Le Mal Entendu, où je portais la voix des hommes, et ainsi de suite. C'était passionnant pour moi de vivre toutes ces vies et d'imaginer, oui, comment on peut exister, supporter ça. Il y a une copine de Francia qui se vante à un moment donné d'avoir fait 50 clients par soir à sa plus belle période. Donc il faut aussi savoir ça. Je ne veux pas du tout idéaliser la prostitution ou dire que c'est un métier fantastique, formidable et que tous nos enfants, toutes nos filles devraient le faire. Mais les prostituées n'aiment ni le mépris, dont elles sont si souvent l'objet, ni, je crois, la pitié. Bien sûr, il y a des gens qui sont des trafiquants de femmes et des proxénètes cruels.
Oui, tout ça, vous l'écrivez d'ailleurs.
Oui, tout ça existe aussi. La prostitution, c'est mille choses différentes. Mais ces femmes trans du Bois de Boulogne, qui sont une institution française, et tout le monde le sait depuis des décennies, c'est déjà dans Romain Gary, dans La vie devant soi, il y a un personnage, Lola, qui était un boxeur sénégalais, qui est devenu femme.
Et puis elles sont dans un endroit très précis que tous ces hommes connaissent, hein, puisque chaque, je veux dire, presque chaque origine, chaque nationalité a son coin de bois.
Voilà, c'est ça. Et c'est une réalité que, en général, on ne veut pas regarder. Oui. Et je me suis dit, si quelqu'un maintenant est capable de regarder ça et d'écouter ça en face, c'est peut-être ma petite pomme.
Vous employez un mot que j'aime, c'est écouter. Je propose à Patrick Lemoff, comme si on n'avait pas répété, de lire un extrait de Francia, s'il vous plaît.
Un extrait qu'a choisi Nancy. C'est là qu'il a eu l'idée d'aller voir la belle métisse. Le bois est somptueux en cette saison, quand les cygnes, oies et canards du lac inférieur se poursuivent, caquettent et roucoulent, fondent des familles. Oh, c'est trop dur tout ça, se dit-il. Trop bizarre de penser qu'à l'instar des oies du lac, des chevaux de France Gallo, des lions du cirque Grusse et des milliers de chiens qui promènent chaque jour leur propriétaire au bois de Boulogne, nous autres humains sommes en vie à la faveur d'un certain agencement et encouragement des pauvres organes qui nous pendouillent à l'entrejambe. Que nous devons notre existence non à la décision solennelle d'un dieu omnipotent, mais à un frottement et un giclement. C'est hilarant. Aucune société humaine n'a encore réussi à regarder ce simple fait en face. Toutes ont inventé des salades pour le nier. Chaque fois qu'il est passé à vélo devant la grande métisse et qu'ils ont échangé un sourire, il lui a semblé qu'elle comprenait cela. Son regard est à la fois attentif et léger, ni prédateur ni prédicateur. Ça lui plaît. Ça lui plaît vraiment. S'il peut juste se blottir un quart d'heure contre ce grand corps brun, tout ira mieux. Ce sera chaud et revigorant. Retour à la source, à la vraie, celle de la vie. Au fond, ce qu'il aimerait faire, c'est danser avec cette femme. Oui, qu'elle lui apprenne à danser, et à rire et à pleurer. Le coït pourrait venir après ou pas, ce n'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est qu'à force de se mettre à genoux sur les prie-dieu, de se tenir droit sur les bancs de l'église et de l'école, de suivre le parcours fléché des garçons de bonne famille habitant Auteuil, on passe à côté de la vie. La voilà. Par bonheur, elle a l'air disponible. Il adore le regard de cette femme. Elle le reconnaît, c'est sûr. C'est insensé, mais mon Dieu, il va le faire.
Merci Patrick Lemoff, cette lecture extraite de Francia, Nancy Houston, Actes Sud. Il faut vraiment se mettre dans la peau de l'homme que vous décrivez. C'est-à-dire que vous êtes, j'imagine, non pas prise d'une transe divine, mais plongée dans un caractère masculin, quand vous écrivez ça.
Tout à fait.
Que ferait-il? Comment réagirait-il? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que son désir sexuel? C'est tout ça qu'on lit.
Et parfois, c'est des petits salopards, mais parfois, c'est des garçons très émouvants, très touchants. Celui-ci qui a grandi tout près de là où nous sommes, à la maison de la radio. Auteuil, c'est un quartier très spécial. Il a grandi dans une famille qui était contre toute démonstration d'émotion, qui est presque contre la discussion et contre tout ce qui pourrait être salissant. Et il a grandi avec une sorte d'incapacité d'être dans son corps, de bouger son corps. Et je connais beaucoup de Français comme ça, à vrai dire. Je trouve que la France est facilement... Les Français de certains milieux, bien sûr, vivent facilement la tête séparée du corps avec un surinvestissement de la tête et un désinvestissement du corps.
Ce qui n'est pas le cas des Canadiens, ce que vous êtes à l'origine, Nancy Houston.
Mais touchée, mais je suis c'est tellement mauvaise Canadienne que je ne saurais pas vous dire comment ça se passe de nos jours.
Est-ce que vous êtes une bonne Française?
Non, je suis une bonne exilée, je suis une bonne expatriée. Et c'est pour ça aussi que j'ai de la facilité à me projeter dans ce monde du bois de Boulogne, parce que tout le monde est étranger. Et c'est pour ça aussi que dans ce livre, pour la première fois de ma vie, j'apparais, je campe mon propre personnage.
Oui, vous vous faites surnommer la griffonne.
Je suis la griffonne, je passe mon temps à griffonner, mais je suis aussi une chimère, comme le sont les griffons. Et Je crois que c'est parce que je m'identifie effectivement plus en tant qu'étrangère qu'en tant que telle ou telle nationalité. Étrangère à Paris, c'est-à-dire avec des mélanges et tout ce que ça peut donner comme pouvoir magique que ce mélange.
Je voudrais qu'on écoute Griselli Disréal, la prostituée suisse qui a effectivement eu plusieurs activités artistiques, qui était une militante aussi et qui trouvait que la prostitution avait un but social. On l'écoute, vous avez écrit sur elle, rappelez-nous le titre d'ailleurs du livre.
Ça s'appelle « Reine du réel ».
Oui, c'est une longue lettre à Griselli Disréal que voici.
Il faut démystifier les choses jusqu'à la racine. Pourquoi la prostitution existe-t-elle? Eh bien, c'est que la sexualité ne marche pas comme sur des roulettes pour tout le monde. Et ça, on doit l'admettre. Et c'est une chose qui est évidente et qui ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai beaucoup parlé avec mes clients. Je leur disais, mais enfin, pourquoi tu viens chez moi? Tu as un problème, il y a quelque chose qui ne joue pas dans ton couple, ou alors tu es seule, pourquoi? Tu es timide, tu n'oses pas engager une relation avec une femme. J'ai eu, moi, des hommes extraordinaires, cultivés d'ailleurs, qui devenaient des amis, qui m'étaient envoyés par des sexologues et des psychologues. Alors voyez-vous, nous avions aussi une discussion très intéressante, et j'essayais de comprendre pourquoi ces hommes étaient malheureux, pourquoi ils restaient confinés dans leur solitude et pourquoi leur sexualité était bloquée quelque part. Donc la prostitution doit aussi être un révélateur. Ça ne doit pas seulement être une solution de rechange. Il faut aller plus loin dans l'analyse, voyez-vous. Et je pense qu'un jour, peut-être, espérons-le, on n'en aura plus besoin. Mais ce n'est pas encore demain la veille.
La prostitution qui révèle les problèmes d'un homme, les dérives d'un homme, la peur d'un homme, parce qu'il est aussi question d'hommes qui ont la trouille dans la vie, et c'est assez facile pour eux d'aller là-bas au bois.
C'est très important comme facteur, la peur. Il y a une autre phrase de Griselidis que j'aime beaucoup. J'adore sa façon de dire « voyez-vous ». À un moment donné, elle dit « bien sûr que tout le monde voudrait d'un monde sans prostitution. Moi aussi, je voudrais d'un monde sans prostitution. On voudrait aussi d'un monde sans dentiste. » C'est imparable comme argument. Elle ajoute, donc, malheureusement, il y aura toujours des gens qui ont mal aux dents et il y aura toujours des hommes qui ont mal à l'âme. Et pourquoi est-ce que c'est des hommes? Si on nie complètement toute différence pertinente ou importante entre les sexes, on ne peut pas comprendre le fait que 99% des clients dans le monde entier sont des hommes. Et ce qu'on ne... c'est très rustique, en fait. Et la sexualité masculine ne fonctionne pas de la même façon que la sexualité féminine. Et c'est-à-dire, toutes les religions, probablement, sont en place pour aider les hommes à contrôler leur mouvement intempestif et incontrôlable qui n'ont rien à voir avec leur volonté. Les femmes ne fonctionnent pas de cette façon sexuellement. Donc c'est un problème masculin et c'est l'autre raison pour laquelle j'avais besoin d'inclure tous ces personnages.
On a cherché une chanson qui irait bien avec votre sujet, Nancy Houston. On a pensé que Lou Reed, Walk on the Wild Side, dans laquelle il évoque la sexualité et entre autres la transidentité, serait bien là sur France Inter à 17h28.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do mojo, never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Do 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 do.
Nous avons dans le grand atelier avec Nancy Houston, qui, je vous le rappelle, sort Francia chez Actes Sud, un comédien qui vient de lire un extrait. Merci encore à vous, Patrick Lemoff, d'avoir lu cet extrait de Francia. Mais je voudrais que l'homme que j'ai en face de moi me dise ce qu'il pense de ce bouquin de Nancy Houston. Vous n'êtes pas obligé d'en dire du bien, forcément, parce que Nancy est là, hein, mais j'aimerais bien votre, non, avis, d'ailleurs, votre avis de lecteur.
Quand quelque chose... On est assez francs entre nous. Et
je n'aime pas du tout ton livre, c'est ça?
Non, non, pas ça. Ça m'est arrivé qu'elle ait écrit un texte pour moi, puis je n'arrivais pas à accrocher dessus. Et je lui sais gré de ne pas s'être fâché.
Ah oui.
Vraiment. Mais là, j'aime beaucoup ce livre. Et il m'a l'image qui m'est venue après l'avoir terminé, c'est... j'étais au Prado et... On voit les tableaux, un peu comme tout le monde, on est à 2-3 mètres, on regarde, comme ça. Et il y avait, je rentre dans une pièce, et là je ne voyais pas le tableau, je voyais que des gens agglutinés, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Et c'était le fameux tableau de Jérôme Bosch avec l'enfer, comme si tout d'un coup, après avoir regardé d'un peu de haut les très beaux tableaux de Goya, on se disait... Tous ces détails, il fallait voir le tableau de près. Et d'une certaine manière, j'avais presque l'impression de voir un dessin de Sempé. Et ce roman, eh bien, me fait penser à ce tableau de Bosch où on s'accroche à tous les personnages qui viennent, les clients, qui viennent de très loin. Et telle personne qui est un jeune homme puceau, tel autre, c'est un couple et il vient avec sa femme parce qu'il a besoin, tel autre, il a tué quelqu'un. Et on est absolument accroché à la destinée aussi bien des clients que de la prostituée. Et je trouve que cette capacité à pas nous mettre tout de suite dans une dimension de « on arrive à tout survoler généralement », ça fait terriblement... Ça nous met en sympathie, mais au sens où on a envie de comprendre la personne dont il est question.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé cette chose.
C'est parce que vous ne jugez pas vos personnages.
Jamais.
Nancy Houston.
C'est-à-dire à la fois je suis présente dans le livre comme personnage, mais je me sens absente fondamentalement. Mmh. Je me suis sentie comme un prisme. Et la lumière des personnages passe à travers moi et tombe sur la page en couleur. Et donc, j'ai cette possibilité d'être ce prisme. Et je suis reconnaissante. C'est juste ça que j'essaie de faire. Je reçois et je transcris, je transmets avec effectivement que du respect.
Pour chacun des clients chacun. Et pour votre personnage principal, la prostituée transgenre. C'est vrai que vous... Patrick Lemoff.
À un moment, il y a un client qui est un meurtrier, qui a tué une femme, et même celui-ci, c'est un petit peu comme quand il y a un procès en assises, la première journée est consacrée à l'accusé. On regarde, même s'il a tué dans conditions horribles, femme, enfant, on essaye de voir comment il était tout petit, on essaye de comprendre quelque chose, comme si on ralentissait la pulsion de vengeance pour se dire pourquoi cela est-il arrivé.
D'ailleurs, Patrick est venu avec moi, justement au procès en assises et en appel, des tueurs de Vanessa Campos.
Alors, qui était Vanessa Campos, on va écouter ce petit reportage, effectivement. C'est une prostituée qui a été assassinée dans le bois de Boulogne en 2018.
Une personne hyper sympathique, plein de joie de vivre.
Elle avait des fautes encore pour parler français. Elle avait un grand cœur.
Sur la photo brandie par ses amies transgenres et travailleuses du sexe comme elle, Vanessa Campos prend la pose. Les doigts glissés dans une longue chevelure noire, son sourire généreux éclaire des yeux foncés au maquillage appuyé. Vanessa, Elias, pour l'état civil, était une très jolie femme. La prostituée péruvienne a été assassinée parce qu'elle tentait de protéger un client que des voleurs essayaient de racketter. Une de ses camarades, Ramona, remet en cause la loi qui pénalise le client et l'insécurité qu'elle engendre.
Il faut savoir qu'après cette loi, les filles elles doivent se cacher de plus en plus dans les bois pour assurer la propre sécurité et assurer au client qu'il n'aura pas la police pour le pénaliser. Il faut aussi rappeler que ce n'étaient pas des clients qui ont assassiné Vanessa. Ce sont des criminels, ce sont des violeurs, ce sont des voleurs.
Voilà, on trouvait que c'était bien résumé, cette histoire que vous citez, que vous racontez aussi. On a la solidarité des femmes autour, malheureusement, du cadavre de Vanessa Campos, parce que la solidarité entre les filles ou les garçons est très importante dans votre description. Vous teniez à ce qu'il y ait cette lumière-là au milieu d'un univers souvent glauque, parce qu'il y a de la violence au bois de Boulogne et vous n'occultez rien.
Et dans ce cas précis de l'assassinat de Vanessa Campos, l'ironie suprême est qu'elle a été tuée avec l'arme de service d'un policier qui s'était fait client 15 jours plus tôt et qui avait laissé son arme sur le siège de sa voiture.
C'est une histoire folle, hein ?
C'est une histoire folle. Donc c'est bien dire l'hypocrisie de notre société. À la fois, on fait une loi pour rendre leur vie impossible et c'est les policiers eux-mêmes qui transgressent la loi.
Voilà, la loi qui condamne les clients et qui amène les prostituées à aller de plus en plus loin dans le bois, c'est-à-dire de plus en plus dans l'obscurité, et c'est là qu'il peut se produire des horreurs.
Et c'est là qu'elles sont plus à la merci de cette bande de voleurs égyptiens. C'est ça, effectivement.
Et tout ça, c'est dans Francia, entre autres. Patrick Lemoff, vous connaissez Nancy Houston depuis pas loin de 40 ans, je le disais en ouverture du Grand Atelier. Vous vous rencontrez dans un lieu culturel à Château-Vallon en 1985. Vous faites quoi là-bas ?
Je jouais, j'étais avec mon ami Denis Guénoun, qui a écrit une assez grande pièce qui... comme ça, une sorte de saga sur la Renaissance, et à Château-Vallon, qui se jouait en extérieur. Et à l'occasion de la publication de son livre, le mari de Nancy, Zvetan Todorov, avait écrit la préface, et ils sont venus faire une intervention, et Nancy est venue aussi faire une conférence, et je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était donc en 85, à Château-Vallon.
Sur quoi portait votre conférence, Nancy Houston?
Je crois que c'était sur l'utilisation des figures de la mythologie grecque dans la théorie féministe contemporaine. Et j'avais un dialogue avec Denis Guénoun sur scène ensuite. Et Patrick jouait Michel-Ange. Je me rappelle qu'il était couché sur un échafaudage en train de peindre le
plafond. Je peignais la Sixtine pendant qu'il faisait sa conférence.
c'était d'un chic, Château-Vallon.
Non, mais c'était un chic.
1985. Puis dans la vie, vous avez été souvent voisin par le hasard de vos amours, peut-être. Vous vous êtes retrouvée en Suisse à une époque.
Oui.
Maintenant, vous vous retrouvez à Paris, puisque vous habitez Paris, et vous voilà un nouveau voisin.
Un certain temps, les Bretons sont des Celtes, mais les Helvètes aussi. Donc j'ai une période en Helvétie pendant une dizaine d'années, sur les bords du lac Léman, et où j'avais mon amoureuse. Et Nancy était aussi de temps en temps là-bas, donc on s'est retrouvés à Paris, voisins, voilà donc.
Et vous arrive de temps en temps d'accompagner Nancy Houston dans des lieux. Je crois que vous êtes allés en prison ensemble, inaugurer une bibliothèque, si je ne m'abuse.
Oui, c'était à la bibliothèque des femmes à Fleury-Mérogis. Oui. Et puis on est allé au procès. Oui, on essaye d'avoir des activités qui ne soient pas uniquement des activités dites proprement culturelles.
Pourquoi d'ailleurs, Patrick Lemot, pourquoi vous avez besoin d'être un saltimbanque dans la cité?
Pour donner un exemple, pendant que j'étais directeur du Festival des Francophonies, chaque année...
À Limoges, pendant
Limoges,
5 ans.
Il y a le fameux... au mois de septembre, il y a la journée du livre ou la joie de lire. Chaque gouvernement change le nom, mais c'est toujours pareil. Et puis, plutôt que d'aller faire de la publicité pour faire des lectures et inviter les gens, j'avais choisi d'aller lire à la prison de Guéret. Et parce que je sais que en prison, même s'il y a que 8 personnes, il y a 2 qui sont intéressés par de la lecture, d'autres qui se disent bon, ça nous fait une heure de moins à tirer en cellule. On sait que ça a une utilité.
Ça compte.
Et que ça compte. Alors que, bon, même si on a 100, 120 personnes, ça compte plus pour notre ego que pour eux. Et le rapport qu'il y a avec les gens, même s'il y en a un qui dort devant, parce qu'il a mal... Il y a quelque chose de puissant. Il se passe quelque chose, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, la fonction de fait de jouer ou de d'offrir de la parole, bon, c'est un véritable échange.
Est-ce que ça donne pas aussi un sens à votre métier?
Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire, on sent que c'est un peu comme si on donne de l'eau à quelqu'un qui a soif.
Oui.
Et ça, il y a rien de plus réjouissant parce qu'on pense plus à soi à ce moment-là.
Oui. Il y a une écoute à nul autre pareil en prison. Et ça fait très longtemps que j'y vais, pas régulièrement, mais de temps en temps.
Vous avez travaillé avec l'Observatoire des prisons, je crois.
Oui, tous les deux. On a des rapports à l'Observatoire international des prisons, qui est de moins en moins financé, subventionné, je dois souligner, par le gouvernement, ce qui est très grave. Mais je vais régulièrement dans des maisons d'arrêt ou des pénitenciers pour discuter avec les clubs de lecture là-bas. Et pour moi, effectivement, c'est comme, je dirais la même chose par rapport à l'université. Je trouve que l'écoute en prison est 10 fois plus intense et qu'on sent la nécessité de ces échanges, donc l'utilité, oui.
Oui, et puis j'ai une fille qui s'occupe aussi, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Prison Insider, de gens qui sont dans des situations, c'est sûr, très difficiles. C'est sûr qu'il y a une autre braise dans le cœur des gens au moment où ils nous parlent. Ça bavarde pas.
Est-ce que vous leur lisez des poèmes parce que Nancy Houston écrit des romans d'abord, des essais, pas ensuite, mais également, et depuis peu, on sait que vous êtes aussi poète, parce que vous avez publié « Choses dites », qui sont des poèmes d'amour, d'amour déçu, que vous avez vécu cet amour dans les années 90 et écrit en anglais, puis vous venez de les traduire pour nous en français, donc on a une version en anglais et une version en français, et ça donne ça par exemple. Le poème s'appelle Crédit Mutuel. Je me permets de lire, monsieur le comédien, ça va aller très vite. Comme je ne vous l'ai pas demandé, je vais me permettre de le faire. On ne se regardait presque plus, chacun craignant de voir le désespoir dans les yeux de l'autre et s'efforçant de cacher le désespoir dans les siens. On livrait, mais séparément, une bataille perdue d'avance contre le monde, le temps, notre propre histoire. C'est pourquoi on soupirait en répétant encore et encore « Ah, si seulement on s'était rencontrés il y a 20 ans au Crédit Mutuel ». Il y a toujours à la fois de la rage, de la colère face à cet être aimé et cette histoire terminée, mais aussi cet humour qu'on retrouve aussi dans Francia et dans d'autres romans, Instruments des Ténèbres et beaucoup d'autres. Ça vous est, c'est évident chez vous, l'humour associé à une situation qui peut être tragique.
Mais ça m'a sauvée en tout cas. À l'époque, je sentais véritablement cette écriture comme quelque chose de vital. Je voyais ces poèmes comme du pain béni qui me tombait du ciel pour ne pas m'effondrer. Et c'est toujours ça le paradoxe de l'art, de la création. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas en nous cette lutte perpétuelle entre la lumière et les ténèbres, ou le bien et le mal, il n'y aurait pas d'art. Et donc, c'est ça que l'art peut faire. C'est pas par hasard que Dostoïevski est passé 10 ans en bagne et qu'il ait rencontré lui aussi beaucoup de meurtriers, beaucoup de criminels, qu'il ait appris en fait ce qu'il sait de notre espèce grâce à ces gens qui avaient échoué, entre guillemets, en prison.
Vous êtes même capable, dans le prologue du livre Francia, de dire, écoutez, on est tous un peu putes dans la vie, de toute façon, vous expliquez pourquoi. Elle dit, Nancy Houston, je suis une pute du cerveau.
Oui, je suis prête à me mettre en tandem avec tout ce qui passe, du moment que ça rapporte.
Voilà, c'est ça, pour que ça rapporte. On va écouter Laurent Barden et Tigre d'eau. Ils sortent un 4e disque, ils sont rejoints sur un titre, Meilleur, par Jeanne Adède.
Je suis capable de tout, du pire comme du meilleur. Deux visages, deux cœurs, de tout beauté.
Laurent Barden, Tigre d'eau, Jeanne Adède, Meilleur.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Et si on partait pour Rouen, au musée des Beaux-Arts? Bonjour Florence Calame-Levert. Êtes-vous avec nous? Ah bon, vous n'êtes pas là? Si, me dit-on.
Absolument, je suis là.
Voilà. Bienvenue dans le grand atelier. Il y a Nancy Houston et le comédien et metteur en scène Patrick Lemauve qui sont avec nous. Vous êtes la commissaire de l'exposition Normandisme consacrée au peintre britannique David Hockney. Alors, Hockney, on se souvient qu'il est une figure du mouvement pop des années 60. On sait aussi que ses pools, ses piscines sont des toiles célèbres, mais il est aussi un peintre des espaces, des paysages et puis un photographe. Je voudrais savoir ce que vous avez choisi de montrer Florence Calame-Levert au Musée des Beaux-Arts de Rouen d'Aucenay. Il y a une production récente là que vous pouvez exposer et proposer aux visiteurs ?
Oui, absolument. David Aucenay vit et travaille en Normandie une partie de l'année depuis 2019. Et dans son petit Giverny en Pays d'Auge, il reçoit des visiteurs. Il vit avec des intimes. C'est vraiment ses partenaires de vie et de travail. Donc l'exposition est en trois volets. Le premier volet présente des portraits, justement des portraits d'intimes et des portraits de gens qui favorisent le care, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un portrait de son médecin, un portrait de sa cuisinière, un portrait de son jardinier.
C'est vrai qu'il y a même son podologue.
Oui, vous êtes bien renseigné. Absolument, on a même son podologue et ses messieurs, et son coiffeur, et ses messieurs étaient là, ainsi que Sophie Gauguin aussi, au vernissage. Et on s'est vraiment amusé comme des fous à faire des photographies. Et puis l'exposition est introduite par l'autoportrait de David Aucenay, donc réalisé en Normandie. Ces dernières années, hein, l'ensemble des portraits datent des années 2021-2022.
Et côté paysage, alors ?
Voilà, le deuxième volet est consacré au paysage essentiellement réalisé dans ce petit Giverny et également en point central, une peinture réalisée sur toile. Et constituée en atelier, puisqu'il a son atelier en Normandie, d'après des croquis effectués à Giverny au printemps dernier sur iPad. Alors, ça fait depuis 2012 que David Aucenay travaille vraiment sur iPad en utilisant ce support de manière à venir réinterroger la peinture. Et je crois que ces relations entre les travaux réalisés sur iPad, qui sont d'une part des croquis, mais aussi on en présente sur écran, qui permettent de voir la manière dont David Aucenay travaille, de documenter son travail, mais en même temps il s'agit de pièces, hein, d'œuvres d'art. Et un troisième volet, clou du spectacle et point d'orgue, pardon, de l'exposition, qui s'intitule, on a gardé l'expression anglaise, qui s'intitule The Moon Room. Alors là, c'est complètement inédit. Beaucoup de choses sont inédites dans l'exposition, mais là, on a vraiment un ensemble, donc, d'œuvres réalisées, la nuit, dans le jardin, au clair de lune. Vraiment une série de 15, paysage du jardin au clair de lune, et c'est absolument bouleversant.
Moi, j'ai vu des photos dans Télérama, d'ailleurs, on voit un paysage très sombre, éclairé par la lune. C'est beau, un peu inquiétant, assez sensuel aussi.
C'est très sensuel, c'est très émouvant. Et puis cette lune, en fait, on a pour fil directeur aussi, comme David Aucenay a pour fil directeur dans sa peinture depuis toujours, vous parliez tout à l'heure des piscines, mais le fil directeur qui est le reflet en réalité. Et là, on a ces lunes qui viennent refléter le soleil, qui sont l'ambassadrice, enfin qui sont à chaque fois la lune est l'ambassadrice du soleil. Et on imagine David Aucenay du crépuscule à la nuit noire dessinant sur ce support qui lui-même est un reflet puisqu'il dessine sur cette tablette lumineuse.
Ah ben merci Florence Calame-Levert, on vous sent passionnée par votre sujet, Madame Calame-Levert.
Absolument, et vraiment, j'invite les visiteurs à venir nombreux. Il faut peut-être noter aussi que l'exposition est gratuite.
Oui, l'entrée est libre et vous avez jusqu'au dimanche 22 septembre pour vous rendre à cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Rouen, Normandisme, avec des couleurs encore un peu pop, mais aussi vous allez découvrir une façon de travailler différente de David Aucenay. Merci encore.
Je vous en prie, c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous.
Que vous avez des couleurs de Aucenay plein la tête, là, Nancy Houston. Je sais que vous l'avez vu dans un musée, mais pas en France.
J'ai vu une expo à Toronto il y a quelques années, oui. Oui.
Patrick Lemoff, en dehors du Prado, vous visitez d'autres musées ?
Dans les villes où il y en a.
Cela dit, il y a
deux choses quand on va dans une ville.
Oui.
Moi, je vais dans les églises et dans les musées. Et puis après,
pour voir les tableaux ou pour prier ?
Non, pour se reposer dans les églises.
Oui.
C'est... Non, vous voyez, je ne sais... Je n'ai pas ça entre
vous. Vous êtes athée comme Nancy Houston?
Je ne sais même pas.
je pose cette question, vous savez pourquoi?
Je ne sais même pas.
Bien sûr, parce que... Enfin, je dis bien sûr, oui, je le constate. Je l'entends parce que Nancy Houston décrit une catholique fervente qui prie et qui a un rapport à la nature très beau aussi, presque mystique. Ça lui fait du bien d'enserrer un arbre parce que ça lui rappelle sa grand-mère, son abuela, comme on dit, et son enfance heureuse avec elle, alors que son enfance n'était pas heureuse puisque c'était une fille dans le corps d'un garçon qui s'appelle Ruben.
Oui, elle a été élevée dans le catholicisme et c'est une religion très très importante dans toute l'Amérique latine, comme on sait. Mais on sait moins que c'est une religion très importante avec d'autres dans le bois de Boulogne et que la plupart des travailleuses du sexe arrivent au travail avec des symboles, des gris-gris, des chapelets, des petites statuettes, des cartes postales de leurs saints préférés. Beaucoup vont prier régulièrement à la chapelle Sainte-Rita, oui. À Montmartre, la sainte des causes désespérées.
Et quelquefois ça marche. Vous le lirez.
Donc, tout en étant personnellement non-croyante, j'ai été élevée dans la religion chrétienne et j'ai beaucoup fréquenté d'autres religions et je dois dire que je garde une place dans mon cœur pour le sacré. Donc je n'avais pas trop de difficultés à me projeter dans l'esprit de Francia avec cette immense douceur qu'elle a. Et les femmes me parlaient de ce besoin de poser ses soucis. C'est ça que permet la prière. On pose ses soucis et on accepte la consolation. Et ça fait, comme tu dis, comme on va dans une église, moi aussi je vais très régulièrement et j'amène mes petites filles dans des églises. J'allume même des cierges parce que ça permet de concentrer la pensée. J'ai plein de petits gestes sacrés que je fais avant de me mettre à écrire.
Par exemple?
Mais notamment, parfois, des bougies. Je ne peux pas trop en dire, mais parce que ce n'est pas public. Mais je suis entourée de gris-gris moi-même. Je ne peux pas m'en passer.
On a tous des gris-gris.
Oui.
Dans leur conversation, et je cite un extrait de Francia, les travailleuses du sexe ont tendance à magnifier leur joie et à minimiser leur déboire. Vous l'avez constaté dans votre enquête orale, si je puis dire, puisque vous avez, lors de maraude, rencontré des prostituées, Nancy Houston?
Oui, bien sûr. Je n'aurais pas fait cette affirmation si je n'avais pas vraiment eu cette impression. Et je crois que c'est logique aussi. C'est important d'être stoïque, c'est vraiment important. Donc, elles rient beaucoup, elles se comprennent au demi-mot. Si on voit un froncement de sourcils, on se dit que ça a dû être extrêmement violent ce qu'elles ont traversé. Et elles n'en font pas un plat parce qu'elles sont toutes logées à la même enseigne.
Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de malheur et aussi beaucoup de bonheur pendant ce travail?
C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, elles ont traversé énormément de violences pour la plupart d'entre elles, mais pas seulement dans le métier, mais avant. Ça, elles partagent ça avec les criminels d'ailleurs. La punition précède le crime, on devrait se le rappeler. Et donc, beaucoup d'entre elles avaient rencontré des violences, y compris économiques ou racistes, avant de venir faire ce travail. Quant au bonheur, je dirais, c'est quelque chose de... un peu singulier, qui est vraiment cette capacité de rire, de partager. C'est comme dans les cafés où on lance des vannes. Je crois qu'elles connaissent, oui, le bonheur. Elles ont connu l'amour. Certaines sont mères. Certaines peuvent sentir le bonheur simplement dans le fait de voir un oiseau se poser sur un arbre.
Ce sont des instants fugaces, ces moments de bonheur. Merci beaucoup Nancy Houston d'être venue parler de Francia. On peut vous voir et vous écouter lire des extraits du livre mardi à la Maison de la Poésie à Paris. Et merci à votre ami de 40 ans, Patrick Lemoff, de sa présence et
merci
de
à
sa
vous,
lecture.
Vincent.
Je vous remercie.
Stéphanie Texier a réalisé cette émission, Karen Dehé, Laurine Aigrevergne m'ont aidé à la préparer. Valentine Chédebois a programmé la musique, il y avait à la technique Benjamin Wagon. Samedi prochain, Émilie Simon sera dans la balade. Dimanche, le chorégraphe Mehdi Kerkouche viendra dans le grand atelier. Vous savez que les deux rendez-vous sont à 17h.